Espace 2. Tout de suite, Babel avec Carole Pirker.
Dès la Renaissance, théologiens et scientifiques ont débattu sur le régime alimentaire prétendu d'Adam et Ève au paradis. Était-il végétarien ou aussi carnivore? Comment cette question est-elle devenue le sujet d'une controverse encore d'actualité? Vous écoutez Babel, bienvenue à vous. Ce matin, on va parler d'une enquête qu'ont menée deux historiens et c'est avec vous, Jessica Da Silva. Bonjour.
Oui, bonjour Carole. Cette enquête, c'est celle que signent Olivier Christin et Guillaume Allonge. Alors, Olivier Christin est spécialiste des querelles religieuses et Guillaume Allonge des questions théologiques. Ils ont écrit un livre intitulé « Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes » dans lequel ils racontent l'histoire d'une controverse théologique qui est aussi une controverse savante qui a commencé avec cette question « Adam et Ève étaient-ils végétariens ? Et si oui, quand et pourquoi les premiers hommes bibliques ont commencé à manger de la viande ?»
Et qui s'intéressait à ces questions ?
Des théologiens, des historiens, des philosophes, mais aussi des naturalistes qui se sont lancés dès la Renaissance dans de vigoureux débats sur le sujet. Cette controverse a posé les bases du débat actuel sur les relations entre l'homme, l'animal et le végétal.
Mais Jessica, quel était l'enjeu de ces controverses ?
C'était la recherche du régime alimentaire idéal, respectueux de l'environnement et du monde animal. Une quête qui agite encore notre époque, parfois même jusqu'à l'excès. Olivier Christin et Guillaume Allonge se sont donc concentrés sur des sources européennes, de la Renaissance et des Lumières, avec pour commencer une véritable enquête au cœur du texte biblique, à la recherche des prescriptions alimentaires qui s'y trouvent.
Et justement, alors quelle place occupe la nourriture dans la Bible ?
Eh bien, c'est la question que j'ai commencé par poser à mon invité, Olivier Christin.
Jamais la question de savoir si Adam et Ève avaient mangé autre chose que des légumes, des graines et des fruits ne se serait posée si la Bible avait dit une seule chose. Or, les théologiens, les exégètes, les prédicateurs, les moralistes vont rapidement s'opposer dès la fin de l'Antiquité, puis tout au long du Moyen-Âge, et surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle, dans un contexte de lutte entre catholiques et protestants, vont s'opposer sur l'interprétation au moins deux passages bibliques. Le moment de la création, le premier livre de Genèse, où Dieu crée les planètes, les eaux, le ciel, le firmament, les animaux, puis Adam et Ève. Et à ce moment-là, il indique à Adam et Ève qu'ils pourront se nourrir des graines, des fruits, des herbes, de tout arbre qui porte sa graine. Jamais il n'est clairement dit que les hommes pourront tuer les animaux pour les manger, pourront prendre le lait, pourront prendre la laine, pourront prendre le miel des abeilles. Mais il est indiqué qu'Adam et Ève, que les hommes auront autorité sur les animaux et autorité notamment dans le choix du nom qu'ils leur donneront. Et après le déluge, Noé sort de l'arche et il y a à ce moment-là une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu, Dieu promettant qu'il n'y aura plus de nouveau déluge pour punir les hommes de leurs péchés. Et pour sceller cet accord, Noé sacrifie un agneau et Dieu rappelle à l'homme qu'il a autorité sur les animaux, qu'il peut manger les graines, les fruits, les herbes, comme dans Genèse 1, mais qu'il peut aussi manger tout ce qui a vie sur terre. Et donc deux passages différents, éloignés, si on en croit la chronologie biblique, de 1600 ans, deux passages, l'un qui contient une autorisation implicite de manger de la viande, mais enfin qui ne parle que de légumes, que de fruits, qu'une diète végétarienne, et l'autre, après le déluge, un autre passage, qui là fait explicitement mention de la consommation de viande. D'où des questions sans fin, pourquoi brusquement l'autorisation implicite deviendrait-elle explicite ou pourquoi l'interdit deviendrait autorisation?
Olivier Christin, il y a une chute morale aussi, hein, puisque pour certains exégètes chrétiens, la consommation de la chair serait une conséquence du péché originel, voire du déluge. Dieu autorise la viande pour compenser le faible rendement des terres après ces pluies diluviennes de ce déluge, 40 jours.
Absolument. On est frappé par le lien qu'il y a entre culpabilité des hommes et consommation de la viande. On peut estimer qu'il y a une chronologie liée à la chute, c'est le péché originel. l'expulsion hors du paradis, l'entrée de la mort dans le monde et donc l'entrée de la possibilité pour les hommes de tuer les animaux pour les manger, en lien avec le travail, avec la souffrance, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu enfanteras dans la douleur. Donc l'homme pécheur est moins bon, moins fort, et il a besoin de compenser cette perte par une nourriture plus riche et plus abondante, plus variée. L'autre explication, c'est celle que vous avez avancée à juste titre, c'est le déluge. La terre est recouverte d'eau salée, d'eau saumâtre, et du coup, elle produit plus de fruits, et les fruits qu'elle produira après, les fruits et les légumes, seront de moins bonne qualité, auront moins de nutriments, et pour compenser cette perte, les hommes diversifieront leur régime alimentaire. Mais dans les deux cas, on voit quelque chose de l'ordre de la perte. C'est parce que l'homme est moins bon ou que la terre donne de moins bons produits qu'il faut manger de la viande. Et donc, la consommation de viande est liée à un discours sombre, à une anthropologie assez sombre sur l'homme.
Olivier Christin, il y a aussi une énigme qui est aussi pratique qu'impossible à résoudre, celle de la question des animaux carnivores. Est-ce qu'ils étaient végétariens avant le déluge? Car sinon, il aurait fallu un nombre immense de bétail pour les nourrir dans l'arche de Noé. Et puis, on a même essayé de faire le calcul.
Oui, il faut imaginer que ces exégètes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, même du XVIIIe, appliquent une pensée très rationnelle à une question au fond insoluble. Qu'est-ce que Adam et Ève ont pu manger dans le paradis? Si la nature de l'homme n'avait pas besoin du régime carné et de produits animaux, qu'en était-il des animaux carnivores? Étaient-ils carnivores dans le paradis? Alors la réponse est plutôt souvent assez négative. Non, pas forcément. Tous les êtres vivants vivent en harmonie entre eux. Et d'ailleurs, s'ils avaient été carnivores, on aurait eu un problème de reproduction des espèces, parce que s'il n'y avait que deux représentants par espèce, alors si la première lionne avait mangé la première brebis, les brebis n'auraient pas pu se reproduire. Mais après, le problème revient avec la question de l'arche de Noé. Qu'y a-t-il à manger? Et comment peut-on expliquer que les animaux carnivores n'aient pas dévoré tous les autres animaux, y compris éventuellement les hommes? Alors certains vont jusqu'à imaginer combien d'équivalents brebis il faudrait pour nourrir combien d'équivalents loups. Comme ça, ça permet de pas compter combien un ours mange ou un lion mange. Au fond, ils savent pas. Très bien. Ils font des dessins ou des projections de ce que devrait être l'arche qui sépare les animaux carnivores et herbivores, les hommes et les herbages. Et en fait, l'arche devient nettement plus grande que le plus grand des porte-avions actuels.
Vous avez parlé d'animaux purs et impurs, et justement, en tout, il y aurait quatre régimes alimentaires qu'on pourrait retrouver dans les textes bibliques, et le troisième, c'est celui de la cache-route, celui qui unit le peuple juif avec de nombreux interdits. Olivier Christin, je vous propose d'abord d'écouter un épisode du Nouveau Testament qui va créer une rupture entre les restrictions alimentaires juives et la nouvelle religion chrétienne. C'est le récit du songe de Pierre.
Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Actes des Apôtres, chapitre 10.
Olivier Christin, comment cet épisode du Nouveau Testament a-t-il été interprété par les exégètes chrétiens?
C'est un épisode crucial, clé. Pourtant, on ne le trouve pas souvent mentionné, il y a relativement peu d'iconographie, mais cet épisode, ce songe, il est essentiel, parce que c'est le moment où justement Pierre reste fidèle aux règles cache-route, il ne veut manger que des nourritures pures, donc refuse de manger des reptiles, refuse de manger du porc, refuse de manger certains volatiles, des poissons sans écailles, etc. Et où brusquement, Il reçoit cette injonction, ce songe ou cet ordre divin, non seulement de tuer les animaux, donc on est loin du récit initial de la Genèse. Toutes les créatures, toutes les nourritures offertes par Dieu sont consommables, sont bonnes. On passe d'un christianisme initial tourné vers une religion d'Israël, vers Rome, vers le monde des gentils, vers la conquête du bassin méditerranéen. Ça correspond aussi aux quatre songes de Paul dans les Actes des Apôtres, ce moment d'expansion au-delà d'Israël, de la nouvelle religion.
On peut dire en fait que finalement, avec ce quatrième régime, qui est celui de l'Évangile, on s'émancipe totalement, c'est révolutionnaire.
Absolument. Donc il y avait ce premier régime supposé strictement végétarien, où même certains auteurs disent qu'il est interdit à Adam et Ève de prendre le miel ou le lait. Et puis il y a le deuxième régime, après le déluge, où la possibilité de manger de la viande et de tuer les animaux est introduite. Le régime cacheroute, qui vient un peu plus tard dans le Deutéronome et Lévitique, où on commence à distinguer les animaux purs et impurs. Et puis ce quatrième régime du christianisme, totalement révolutionnaire, qui a aussi pour fonction de permettre de manger avec les autres, de manger avec les Grecs et de manger avec les Romains, et d'éviter l'entre-soi de la commensalité juive traditionnelle, où on ne peut manger qu'avec ceux qui ont les mêmes habitudes alimentaires. D'où les craintes de Pierre. Pierre a peur, au fond. Il dit « je veux pas manger, j'ai jamais mangé de choses impures ». Et Dieu explique qu'il n'y a rien d'impur. Donc c'est effectivement une émancipation et une universalisation.
Une double validation, on pourrait même dire.
Oui.
Le songe de Pierre, un passage clé pour le christianisme qui va aussi ouvrir une autre question, celle de la modération. Quand tout est permis, comment est-ce qu'on fait pour trouver un petit peu de la tenue, on va dire?
Absolument, ça va devenir une vraie question. C'est-à-dire, puisque les limites ne portent plus sur la distinction des mets autorisés ou des viandes autorisées, ou de la viande tout simplement, d'autres distinctions vont prendre place qui reposent sur les périodes. On peut manger de tout, mais de manière modérée et pas à tout moment. Il y a des moments de plus en plus importants dans le monde monastique qui vont s'étendre avec la diffusion du monachisme à travers le monde chrétien, mais qui jouent aussi un grand rôle pour les laïcs. Ce sont les distinctions des périodes de carême ou des périodes de jeûne qui finissent par représenter une période considérable dans l'année. C'est des centaines de jours dans lesquels, normalement, la consommation de viande ou la consommation d'œufs, la consommation de fromage est prohibée. Donc un certain nombre de jours dans la semaine et puis les périodes de l'Avent et du Carême.
Le 6 mars 1522, à Zurich, des partisans du réformateur suisse Ulrich Zwingli rompent avec la tradition du carême catholique. C'est l'affaire dite des saucisses, le début de la réforme protestante en Suisse. Je vous propose d'écouter un extrait du film Zwingli, le réformateur, de Stefan Haupt, sorti en 2019.
Vous vous plaignez tout le temps de n'avoir rien à vous mettre sous la dent.
Oui, mais on doit faire maigre ces jours-ci.
C'est stupide. Allez, venez tous, mettez-vous à table.
C'est interdit de manger de la viande.
Faire maigre est une invention. Un mensonge éhonté.
La Bible n'interdit pas de manger de la viande.
Alors ça, c'est incroyable. Hey, Hubertus.
Je veux pas filer sur le bûcher, moi.
T'es qu'un trouillard.
Les privations du carême, pour nous, c'est terminé.
Olivier Christin.
C'est un passage formidable et très bien rendu là. Effectivement, la réforme protestante commence à Zurich par un scandale alimentaire. Par le refus d'un petit noyau de personnes autour de Zwingli, on dirait presque une scène dans laquelle on trouve des théologiens, des humanistes, des imprimeurs, des lettrés, des gens qui ne font pas ça parce qu'ils sont ignorants, mais qui font ça parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, décident un jour, normalement de carême, un jour où on ne doit pas consommer de viande, décident de partager quelques saucisses. Donc c'est pas l'appétit non plus qui les pousse, c'est un repas assez modeste. Partagent ensemble des saucisses et ils savent très bien qu'ils enfreignent un certain nombre de préceptes ou de règles. Mais ils le font de manière délibérée en disant que ces règles sont des inventions du catholicisme, des inventions de l'église papiste, de l'église médiévale, et absolument pas des prescriptions de la Bible. Ils vont être arrêtés, ils vont être inquiétés, ils vont passer devant le conseil de ville, le RAT de Zurich, et là, on a les dépositions de ces convives. Ils vont se faire porte-parole, d'une certaine façon, de ce refus d'obéir à des règles externes. Par exemple, c'est Christophe Rochauer, l'éditeur, imprimeur de Zwingli, un grand humaniste, n'a pas respecté ces règles-là parce qu'il travaille, de ses mains, il se fatigue, on retombe sur la chute, gagner son pain à la sueur de son front, il se fatigue. Et pour modérer ses pulsions, ses affects, ses envies, eh bien il n'a pas besoin de se priver de viande, il a juste qu'à travailler.
Qui travaille a besoin de calories.
Voilà, qui travaille a besoin de calories. Et là on voit que la querelle autour de la consommation de viande prend une autre dimension par rapport à ce qu'on avait pu lire dans la théologie médiévale. Il y a une dimension maintenant publique, importante, qui oblige les chrétiens à choisir un peu leur pratique alimentaire. Donc c'est aussi une critique des vœux monastiques et de ces moines qui inventent des règles pour ensuite dire qu'ils sont les seuls à les respecter vraiment.
Et comment justement les guerres de religion ont relancé ces questions sur cette diète originelle d'Adam et Ève au paradis ?
On va voir un peu partout en Europe la progression des idées réformées, luthériennes ou calvinistes ou zwingliennes, s'accompagner de plus en plus de conflits, de violences. On pourrait donner l'exemple de la ville d'Augsbourg en Allemagne, qui est une ville mixte, partagée sur le plan religieux, qui est même une ville où on va instaurer un système de parité exacte. 50% des charges pour les catholiques, 50% des charges pour les protestants, on partage même la charge de concierge de l'hôtel de ville. Tout est prévu. Chaque période de carême, les protestants organisent devant les églises catholiques des grands banquets de tripes et de boudins. Donc ça devient un sujet d'affrontement. En France, pendant la période des guerres de religion, les commissaires du roi pour la pacification des troubles, pour essayer de ramener la paix, légifèrent sur la question de l'ouverture des boucheries, l'ouverture des charcuteries, et surveillent la consommation de viande. Donc pour le 16e, première moitié du 17e siècle, la question du carême est un vrai enjeu. Et du coup, ça fait revenir sur le devant cette question de la viande, la consommation de viande est-elle bonne ou mauvaise, est-elle bonne pour le salut de l'âme ou pas? Et les protestants disent non, ça n'a pas de rapport avec la question du salut.
Olivier Christin, pourquoi et comment s'intéresse-t-on à l'assiette d'Adam et Ève dès le XVIIe siècle dans les cercles savants ? Qu'est-ce qui est en jeu ?
C'est une dispute religieuse. Mais nous avons vu aussi que tous ces théologiens, tous ces prédicateurs n'arrivent pas à répondre à toutes les questions qu'ils soulèvent. Les camps se partagent et c'est pas forcément des camps religieux. Il n'y a pas d'un côté tous les catholiques, tous les protestants, de l'autre côté tous les jansénistes et de l'autre côté tous les jésuites. C'est un peu un paysage confus dans lequel vont intervenir progressivement plus de savants, des naturalistes, des gens qui font de l'anatomie et de l'anatomie comparée entre l'homme et l'animal, des mathématiciens, Gassendi, des médecins, qui vont reprendre ces questions parce qu'il est difficile de traiter ces questions sans citer la Bible, mais apporter d'autres types de réponses et notamment des réponses expérimentales. Regardez si l'homme a des dents de carnassier ou pas. L'homme n'a pas vraiment d'incisive ou de crocs ou de griffes pour déchirer la viande. Est-ce que ça indiquerait qu'il a plutôt une nature qui le prédispose à manger des graines, à broyer de l'herbe ? Oui, mais le système digestif de l'homme est monogastrique, il n'a qu'un seul estomac, pas comme les vaches. Oui, mais alors on va disséquer des chiens, puis on va dire que l'homme a un système digestif beaucoup plus long que celui d'un carnassier comme le chien. Alors des gens vont répondre oui, mais qu'on peut nourrir le chien avec des carottes un certain temps. Petit à petit, on voit des médecins et des naturalistes, et des botanistes, et des chimistes par la suite s'intéresser à cette question, toujours citer Adam, Ève, le régime du déluge, l'arche de Noé, mais commencer à se libérer de l'argument d'autorité, c'est comme ça dans la Bible et ça n'est pas autrement, pour apporter d'autres arguments qui sont les arguments soit d'observation extérieure, soit d'expérimentation.
On observe, on essaie de classer les règnes du vivant. Dans ce livre enquête que vous avez coécrit avec l'historien Guillaume Allonge, vous citez pléthore de sources non théologiques, journaux, revues savantes, des récits, le travail des académies aussi. Il y a une nouvelle culture du débat. Vous parlez d'une courtoisie de la dispute.
Effectivement, ça change beaucoup. Merci d'avoir rappelé aussi que le livre est écrit à quatre mains avec Guillaume Allonge, parce que le livre n'est pas un livre sur juste les théologiens et les savants français ou les savants suisses ou allemands. C'est un livre qui essaye d'avoir une dimension européenne. On parle beaucoup de sources italiennes, parlons de sources un peu anglaises aussi. Peut-être un regret que nous n'avons pas traité la question dans le monde hispanophone, que nous aurions pu élargir. Mais on voit bien que c'est une querelle européenne. Alors, nous avons choisi de nous intéresser à cette question parce que ça permettait de réfléchir à un moment de bascule où on passe d'un type de confrontation des idées à un autre type, c'est-à-dire de la confrontation violente, brutale, menaçante, qui était la règle des guerres de religion et de la controverse religieuse, où on promettait les peines de l'enfer à son adversaire, on le couvrait d'invectives, on le traitait d'imbécile, y compris en public, comme Luther qui fait des caricatures de ses adversaires, à un espace scientifique dans lequel il y a des règles. On peut être en désaccord, mais on ne peut exprimer le désaccord que sous des formes qui respectent un peu la langue qu'on trouve dans les salons philosophiques ou dans les journaux ou dans les académies, c'est-à-dire une langue de reconnaissance mutuelle, une langue de courtoisie, de civilité, de politesse. On dit à son adversaire qu'il est un grand savant, mais qu'on est en désaccord avec lui. Et nous donnons un exemple d'un savant important, Pitcairn, qui est pris à partie. On lui demande de réagir à l'article d'un de ses adversaires. Il s'énerve et il dit oui, il a écrit un article, excusez l'expression, un article de merde. Et ça fait scandale. On ne peut pas dire ça dans l'espace savant du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe. Ce moment-là est au début du XVIIIe. Si on compare avec la controverse religieuse du XVIe siècle, où ces invectives et la scatologie étaient monnaie courante. Donc c'est ça qui nous a intéressé avec Guillaume Allonge, comment on passe de la controverse religieuse à la controverse savante sur un même objet.
Et justement, vous donnez un exemple avec l'ouvrage de Samuel Bochard, qui va essayer de retranscrire, on va dire, tous les animaux, identifier les animaux de l'Éden. Et puis, dans cette interprétation, il arrive à des conclusions qui ne plaisent pas beaucoup.
On a quelques personnages clés dans le livre autour desquels l'intrigue se noue. Il y a Samuel Bochard et son opposant principal, Don Calmet, le catholique. Samuel Bochard est protestant. Et puis on a un médecin qu'on a beaucoup suivi qui s'appelle Philippe Ecquet. Ce sont un peu nos stars du conflit. Bochard, c'est un immense savant, c'est un pasteur protestant qui a des compétences en hébreu, en araméen, en grec, en latin évidemment, des connaissances un peu de l'arabe et qui essaye d'identifier les animaux de la Bible. Il essaye d'identifier à partir des noms de quel animal il s'agit véritablement, est-ce que ce sont des animaux mythologiques ou est-ce qu'ils existent vraiment, comment on les nomme. Et à un moment, dans une note de bas de page, il passe en disant que selon lui, évidemment, Adam et Ève mangeaient de la viande au paradis. Et du coup, ça va déclencher une salve de réponses catholiques, mais de réponses polies, de réponses argumentées, de réponses avec des notes, avec de la philologie, avec des commentaires sur les traductions, quels mots il a choisi. Et donc, on voit bien qu'on est en train de passer vers autre chose, qui est la dispute savante et plus la dispute agonistique où on agonie l'adversaire d'injures en lui promettant les peines de l'enfer. Et puis on a ce médecin aussi qui va rentrer à peu près à la même époque dans des controverses sur la nature de l'estomac, comment on digère, parce que lui il a en tête de lutter contre le relâchement des mœurs. C'est un médecin catholique et il estime qu'on donne trop de dispenses de carême, qu'on autorise trop les gens à manger du beurre, du fromage et de la viande en période d'interdit alimentaire. Et il voudrait lutter contre ça et il essaie de montrer que les aliments maigres sont meilleurs pour la santé que les aliments gras. Il écrit un livre sur ça, c'est un livre de médecin, mais de médecin catholique. Et là aussi, ça déclenche une salve de réponses presque pendant 30 ans.
Olivier Christin, un traité de botanique anglais du XVIIe siècle présente une étrange créature, un agneau végétal, qui aurait poussé parmi les plantes du jardin d'Éden. Qu'est-ce que cet agneau végétal vient faire là, dans ce jardin d'Éden ?
Alors c'est un personnage formidable, John Parkinson. C'est un médecin anglais du début du XVIIe siècle, mais il est catholique. Et il a lui-même un très très beau jardin botanique à Londres, formidable. Et l'une des éditions de son livre comporte une page illustrée, splendide, une très très belle gravure, qui représente le jardin d'Éden. Mais contrairement aux représentations qu'on a l'habitude de voir du jardin d'Éden, qu'on va retrouver chez Jérôme Bosch, on ne trouve pas d'animaux. C'est un jardin d'Éden où il y a qu'Adam et Ève et des plantes. Il n'y a pas un seul animal dans ce jardin d'Éden. Alors on peut dire que c'est une déformation professionnelle, c'est le botaniste qui veut mettre en avant les plantes et montrer sa connaissance. Sauf que au milieu, exactement sous le tétragramme en haut qui représente la présence céleste, on trouve un drôle de palmier sur lequel pousse un animal, un agneau, qui est présenté comme une plante existant vraiment, qui s'appelle Boramets, l'agneau tatar, qu'il aurait lu chez des botanistes français puis des récits de voyage, qui diraient que loin dans l'est de l'Europe, dans les steppes, pousserait un drôle d'arbre qui donnerait, alors on ne sait pas si c'est des fruits ou des feuilles, mais en gros produirait une excroissance qui ressemble à un agneau. Et on ne peut pas penser qu'il ait mis cet agneau végétal sans avoir en tête les conflits entre catholiques et protestants sur l'Eucharistie et sur l'agneau pascal et les controverses entre catholiques et protestants sur consommation ou non de viande en période de carême. J'ai du mal à croire que c'est juste là pour faire joli et pour montrer l'ampleur de son savoir.
C'est quoi, une provocation ou une démonstration assez fine de son temps?
Oui, c'est une illustration de son temps et une démonstration assez astucieuse. Mais il y a aussi l'idée chez Parkinson très forte que la botanique est une science prestigieuse et une science qu'on peut faire remonter au paradis et que Adam a été le premier botaniste moderne.
Olivier Christin, au milieu du XVIIIe siècle, les enjeux de cette querelle autour du régime alimentaire d'Adam et Ève ont changé. Cette fois-ci, c'est la santé, l'hygiène de vie, la longévité qui sont visées. Il y a un but.
Oui, il y a un but. Et dans cette controverse très longue, on voit bien que la frontière entre théologie et sciences de la nature se déplace, que les médecins, les naturalistes, les botanistes mettent à parler de sujets qu'ils auraient abordés avec prudence. Et au fond, ils importent dans la querelle, pour savoir si Adam et Ève étaient végétariens, des préoccupations nouvelles petit à petit. Et ça n'est plus le soin de l'âme, le souci de retrouver l'innocence perdue du paradis d'Adam et Ève avant la chute, qui continue à l'emporter, mais c'est petit à petit la question du soin du corps, de la santé par la nourriture, de la longévité. Ça met du temps, mais on trouve des traités de médecine de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui s'intéressent à la santé, à la longévité, à la manière de prévenir les maladies par la nourriture et qui continuent à citer Adam et Ève, le texte de la Bible. Mais on voit que la fin n'est plus tout à fait la même. C'est plus le péché, c'est la santé. Mais si on lit les premiers livres de la Bible, on voit que les personnages ont une longévité incroyable. Ils vivent tous plusieurs centaines d'années. Mathusalem, bien sûr, mais Adam, plus de 800 ans, Ève, ils vivent des centaines d'années. Les hommes du XVIIIe siècle découvrent qu'ils vivent 60, 70 ans. Et donc, ils relient cette vie courte au choix alimentaire. Est-ce que la nourriture est moins bonne ou est-ce qu'ils mangent trop de viande?
Olivier Christin, je vous propose de découvrir un extrait d'un podcast de 2022 dans lequel il est question de notre rapport à la chair animale. Dans ce passage, c'est la viande qui parle, c'est la voix d'une chair animale en pleine déglutition, un podcast signé Rachel Maisonneuve.
Je vais maintenant accéder à ton pharynx. Dernière étape avant de terminer cette manducation, mais ne crois pas que notre aventure est terminée. Prends une autre bouchée de ma chair et honore-moi. Tu mènes cette danse, le rythme, les mouvements qui s'enchaînent pour m'emmener ensuite dans tes entrailles. Nos chairs sont à présent en osmose. Nous communions. Je suis en toi, je fais partie de toi.
Le podcast Viande sensible de l'artiste Rachel Maisonneuve. Olivier Christin, comment réagissez-vous à l'écoute de ce podcast?
Ben, je trouve passionnant. Je trouve passionnant le choix du vocabulaire, de manducation, mange-moi et honore-moi, nous communions. On voit bien qu'une partie du vocabulaire de la consommation de viande, de l'alimentation, vient du vocabulaire religieux et vient notamment du vocabulaire de la communion. Et vient de la question de l'incarnation du Christ dans les espèces consacrées et de la manducation des espèces consacrées. Et c'est là où nous trouvons exactement, pratiquement les mêmes enjeux au XVIe, XVIIe siècle et dans le podcast que nous venons d'entendre, c'est que évidemment toute cette querelle alimentaire moderne entre catholiques et protestants, mais aussi entre théologiens et médecins. Qu'est-ce que c'est que manger? Qu'est-ce que c'est que manger de la viande cuite et quand même en produire des nutriments vivants dans notre corps? Comment ça fonctionne? Comment tout ça se passe? Quel est le rôle de l'estomac et des intestins dans la digestion? Renvoie bien à une querelle majeure de cette époque-là, qui est la querelle de la présence réelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le dernier repas du Christ? Et qu'est-ce que c'est que la scène? Ou qu'est-ce que c'est que la messe? Est-ce que c'est un repas commémoratif, avec les symboles du pain et du vin? Ou est-ce que c'est véritablement une réitération du sacrifice du Christ sur la croix, avec la présence réelle de la chair et du sang du Christ? Et les protestants, on a parlé tout à l'heure de Zurich et de la querelle des saucisses, mais dans les mêmes années, à Berne, à Bâle, à Zurich, diffusent des pièces de théâtre ou des gravures extrêmement violentes sur les Totenfresseurs, les mangeurs de mort, les bouffeurs de mort que sont les catholiques, puisqu'ils mangent le corps du Christ. Voilà.
Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui on s'intéresse autant à nouveau au régime initial de la création?
Il me semble que peu importe qu'on puisse certifier l'existence ou non d'Adam et Ève ou de l'âge d'or des anciens et dire c'est la même chose l'Éden et l'âge d'or et faire le lien entre véganisme antiquisant et véganisme chrétien, peu importe. Au fond, la leçon de ça, la leçon de ce récit et de la consommation progressive de viande et de la diffusion de la consommation de viande, c'est une leçon sur la modération et sur la nécessité de vivre en harmonie avec le vivant. Nous ne pouvons pas consommer absolument sans borne tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons. Nous ne devons pas vouloir tout ce que nous pouvons. Et nous ne pouvons sans doute pas continuer à avoir des élevages comme celui qui a brûlé aux États-Unis il y a quelques semaines, dans lesquels sont stockés dans des conditions épouvantable, des dizaines de milliers de bêtes, 18 000 vaches ont brûlé vives. Vous imaginez ce que ça veut dire. Et il me semble que dans ce récit d'Adam et Ève, on a la clé d'une réflexion sur comment vivre avec la planète qui est la nôtre, en considérant qu'elle n'est pas inépuisable, et aussi de faire rentrer dans la sphère de nos préoccupations éthiques, morales, les animaux et les autres êtres vivants, que nous ne devons pas continuer à élever dans des cages de 10 cm avec la lumière en permanence, pour fabriquer des poules ou des poulets dont la vie n'a aucune valeur puisqu'on les vend moins d'un euro.
Maintenant, avec le progrès des neurosciences, ce débat, il pourrait gagner une nouvelle dimension.
Oui, le livre s'arrête vers 1750. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faudrait faire un nouveau livre sur ces questions qui préoccupent différents mouvements de soins ou de lutte des droits animaux, de les faire dialoguer avec les neurosciences, les progrès de la médecine, ce qu'on sait de l'apport nutritionnel des aliments, c'est-à-dire de reprendre ce dossier, de refaire discuter ceux qui ont un rapport à la nourriture tourné vers des questions éthiques et ceux qui ont plutôt un rapport tourné vers des questions scientifiques ou diététiques et de voir comment se noue une discussion constructive entre les deux.
L'historien Olivier Christin à votre micro, Jessica da Silva. Vous nous rappelez peut-être le titre de cet ouvrage?
Oui, c'est Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, qu'il a donc coécrit avec Guillaume Allange, un ouvrage paru en avril dernier aux éditions Anacarsis.
Jessica Da Silva, merci pour ces précisions et cet entretien. Un entretien que vous pouvez réécouter en tout temps sur le Play RTS à l'enseigne de Babel. Merci à Gilles Ouzaman et Jorel Ayer qui signent la réalisation de cette édition. Et merci à Daniel Zacker pour la lecture. Daniel Zacker qui est aussi notre fidèle attaché de production. Babel referme ses portes. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Elsaline Uviller et la symphonie fantastique. Belle suite d'écoute sur RTS Espace 2. On se retrouve quant à nous dimanche prochain, même lieu, même heure.
Avec Norma, Vincenzo Bellini a frappé un grand coup. C'est le rôle des rôles pour les divas qui ne reculent devant rien. Seules des ressources vocales exceptionnelles permettent d'interpréter ce personnage qui a la manière de Médée et déchiré entre amour et devoir. Norma, une tragédie lyrique en deux actes, à voir les 4, 7, 9, 11 et 14 juin à l'Opéra de Lausanne. Vibrez au son des plus grandes œuvres le samedi dès 20h dans À l'Opéra sur RTS Espace 2.
Vous écoutez Espace 2, la matinée.